Place publique.
Défaite contre le Portugal oblige, l'équipe de Suisse de football devra disputer les barrages si elle veut espérer se qualifier pour la Coupe du Monde organisée en Russie l'année prochaine. Au-delà de l'aspect purement sportif, nous verrons dans un instant avec notre invité Nicolas Bidot de Présence Suisse quelles retombées on peut attendre des performances de la Nati sur l'image de notre pays à l'étranger. Il est tout beau, il est tout neuf, tout jaune. On parle du nouveau billet de 10 francs émis aujourd'hui par la Banque Nationale Suisse. Mais à quoi bon miser sur l'argent cash alors que nous utilisons toujours plus les moyens de paiement électronique? L'argent liquide peut-il garder la tête hors de l'eau? C'est la question qu'on posera au spécialiste d'économie monétaire Sergio Rossi. Enfin, vous ferez connaissance avec une nouvelle app pour smartphone, Energy Coach, un outil qui va vous permettre de faire des économies d'énergie dans plusieurs domaines du quotidien. Une application présentée dès vendredi à la foire de Delémont et l'année prochaine en Terre Neuchâteloise.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. L'heure était à la déception pour beaucoup hier soir après la défaite de l'équipe de Suisse de football contre le Portugal. Malgré une campagne de qualification exemplaire, la Nati a laissé passer une première occasion d'obtenir son ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde en Russie l'année prochaine. On vous propose dans Place Publique de ne pas revenir sur l'aspect purement sportif, mais plutôt de mesurer les retombées d'une éventuelle participation des joueurs helvètes au Mondial. On en parle avec vous, Nicolas Bidot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez Présence Suisse, un organe responsable de l'image de la Suisse à l'étranger. Vous mettez en œuvre la stratégie du Conseil fédéral en matière de communication internationale. Alors avant toute chose, qu'est-ce que vous retenez de ce match de football d'hier soir? C'est quoi, de la frustration, des doutes, au contraire de la confiance?
Comme supporter de base, évidemment, je suis très déçu, mais je pense qu'on va y arriver quand même, donc je suis encore positif. Par contre, si on prend la question de la défaite hier sous l'angle de votre sujet aujourd'hui, ben on se rend compte que la Suisse était pas, les pronostics étaient assez équilibrés, hein. On a peur de cette équipe. La Suisse est devenue une vraie équipe du foot, elle est dans le top 10. Donc même les Portugais qui ont gagné l'Euro, ben ils doutaient un petit peu. Donc quand même, ça reflète le statut, l'image qu'on a acquis dans le domaine du foot international.
Avec cette impression, hein, avec cette campagne, comme on l'a dit, exemplaire, que la Nati peut faire donc jeu égal face à n'importe quelle autre nation du foot. Mais est-ce que ce n'est pas à double tranchant de régater avec les favoris? La Suisse, qui ne pouvait autrefois que surprendre, elle peut maintenant que décevoir.
Ah, c'est vrai. En partie, vous avez raison. Je pense que là, depuis 10 ans, la Suisse est devenue une nation du foot, qu'elle n'était pas avant. Avant, c'était plutôt la nation du ski, ça l'est encore. Du tennis avec des extraterrestres comme Wawrinka et puis Federer, et puis on est devenu une nation du foot. Mais j'ai l'impression qu'on a, enfin, j'ai pas l'impression, on n'est pas encore dans le top parce qu'on n'a pas encore atteint cette fameuse quart de finale ou demi-finale qui pouvait nous faire atteindre ce niveau-là. Donc, on reste une nation du foot. La défaite d'hier ou la déception ne va pas vraiment entacher une réputation qui s'est faite à force de travail sur 10 ans.
Et que pourrait signifier concrètement une qualification pour les mondiaux en Russie, puisque c'est toujours d'actualité, on l'a dit, il y a des barrages. Comment Présence Suisse peut tirer profit d'un tel événement sportif?
Le sport a un tel impact en termes d'image. Vous savez, de nombreux pays investissent dans le sport, hein, pour changer leur image, pour soit recevoir des championnats, soit tout simplement former leurs sportifs. Donc il y a une association entre l'image d'un pays en termes de sport et la perception qu'il a à l'étranger. Donc une nation qui est qualifiée pour le mondial, c'est un projecteur, c'est un coup de pouce à l'image, et de nombreuses entreprises s'associent à cette dynamique-là. Donc pour nous, il y a toujours un coup à jouer. Il y a un intérêt médiatique, il y a un intérêt économique pour les pays qui participent à ces Coupes du Monde. Donc on arrive toujours à tirer en termes d'image, même si on fait des petits parcours, des bénéfices.
Eh bien, on se souvient que vous savez tirer profit des manifestations d'ampleur. Bien sûr, le pavillon suisse à Milan a beaucoup fait parler. Il y a aussi les maisons ou villages suisses réalisés lors des Jeux Olympiques récemment à Sochi et Rio. Par contre, on ne voit pas tout à fait ce qui pourrait être mis en place pour un mondial de foot. Ça a l'air peut-être plus difficile pour vous à appréhender de par la nature même de cette manifestation.
C'est vrai. On l'a fait à la Coupe du Monde à Rio, on l'a fait à l'Euro à Paris. C'est assez difficile comparer aux Jeux Olympiques ou aux Expos, mais comparons tout d'abord avec les JO. Avec les JO, vous avez une ville, ça c'est important, une ville avec les sportifs qui sont dans vos maisons suisses. Donc vous avez une concentration des médias, vous avez la possibilité de montrer ce que sont vos sportifs en dehors des terrains de compétition, et ça, avec le foot, tu n'y arrives pas. Le foot, c'est dans plusieurs villes, c'est moins fun parce que c'est des stades de foot, on a déjà vu la télévision, donc pour nous, la nécessité d'investir ou la possibilité de faire une action de com' avec le foot, ça dépend véritablement de la vie dans le pays dans lequel on se trouve. On a joué à Rio parce qu'on savait qu'on pourrait faire foot et JO. On a joué à Paris parce que c'était un pays voisin. Là, sur la Russie, c'est moins évident.
Du coup, comment on peut capitaliser quand on est présent suisse et puis qu'on s'occupe justement de faire la promotion de l'image du pays à l'étranger, comment on peut capitaliser sur ce parcours de la Nati qui, malgré tout ce qu'on a dit, est exemplaire. Comment miser sur ces valeurs qui sont véhiculées par le jeu offert par les Suisses?
Bon, alors là, d'une manière générale, nous on prend des images, on prend des images de joueurs, on les transforme dans des valeurs, c'est-à-dire que lorsque l'équipe joue bien, lorsque le joueur dans son club joue bien aussi, on met en avant la compétitivité, on met en avant les qualités suisses qui font qu'à la fin, on est des bons joueurs, on a peu de personnalité, hein, c'est quand même un vrai collectif, il n'y a pas une tête qui fait pas, ça ressemble à une montre suisse, donc on essaye de mettre en avant ces résultats avec de l'image, on va demander à la télévision suisse de nous prêter des images, et puis ensuite de ça, on illustre finalement cette équipe de foot, ce collectif par rapport aux valeurs qui font la Suisse. Et on travaille en fait sur le Swiss Made. Là, vous pouvez transformer une équipe de foot qui fonctionne dans une illustration du Swiss Made. Swiss Made qui est une valeur à la vente, notamment pour nos produits à l'étranger. Vous savez, vous voyez le nombre de sponsors qui sont associés au foot. Hein, ils ont tous compris le transfert d'image entre le foot et l'économie est relativement évident.
En fait, ce n'est pas forcément là que vous avez le plus de travail à faire. Ça se fait tout seul, si je vous comprends bien.
Oui, c'est vrai, non, ça se fait tout seul. Ce qu'on fait toujours, lorsqu'on a des maisons suisses qui s'associent au foot, on l'a fait par exemple à Paris hier, et à Rio, on essaie toujours de proposer une fan zone qui, elle, corrige un petit peu l'image qu'on peut avoir qui est négative. L'image négative de la Suisse, c'est souvent un pays égoïste, qui ne sait pas faire la fête, etc. Donc, lorsqu'on a une dynamique avec une équipe de foot, qu'on a une fan zone, comme c'est le cas à Paris et à Rio, on essaie d'avoir une fan zone cool, différente, ouverte. Et comme ça, on a deux choses. L'équipe en tant que telle qui met en avant la capacité de marquer des buts, de gagner, et d'autre côté, dans la fan zone officielle de l'équipe de Suisse, eh ben vous avez une contre-communication sur l'image et la coolness, qui est un peu un défaut de notre pays à l'étranger en termes de perception.
Nicolas Bidot, est-ce que vous rêvez d'un phénomène à l'islandaise? Vous rêvez que les Suisses, tout d'un coup, se fédèrent autour d'un cri qui soit adopté par le monde entier?
Ouais, alors ça nous a fait... À Paris, on a un peu une claque, parce qu'on n'avait pas ça, et on a vu nos collègues islandais qui faisaient bien « oui ». Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que l'Islande appartient à ces nations qui n'étaient pas des nations du foot et qui sont en train de devenir des nations du foot, qui est arrivé à la Suisse il y a 10-15 ans. Malheureusement, il y a 10-15 ans, on n'a pas associé ça à un haka ou à un cri de bataille, on aurait pu le faire. Nous, c'est plutôt la multiculturalité qu'on met en avant. Souvent, on met en avant cette Suisse, faite d'étrangers, qui a donc la nécessité de travailler avec des étrangers. Ça, c'est un truc qui marche. C'est moins fun que le cri islandais, mais c'est une façon de profiter de bons résultats au foot.
Pour terminer, en termes d'image, on imagine que le Graal, c'est que la Suisse accueille une grande compétition sur ses terres, un peu comme les JO hein, qui viennent de tomber pour Paris. C'est par exemple ce projet de Sion 2026 qui vous anime et qui, on imagine, mobilise toute votre attention.
Toute mon attention, je suis associé à ce projet, à la fois au niveau fédéral et plus près du comité d'organisation, parce que la chose qui marche le plus en termes d'image, c'est lorsque vous allez dans un pays. Donc si on peut faire venir des gens, si on peut faire découvrir la Suisse à travers une manifestation, à travers ses événements sportifs, mais aussi ce qu'elle sait faire, organiser, être nickel au niveau des transports et de l'écologie, ça en termes d'image, c'est énorme et ça serait génial de pouvoir le faire une fois. Ça serait un Graal, vous l'avez dit, et c'est juste.
Merci infiniment Nicolas Bidot d'être venu avec nous dans Place Publique. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci et hop suite. Au revoir.
Au revoir.
Place Publique. Gabriel Devecq.
Et ce bout de papier va remplir votre porte-monnaie. Il est jaune. On y voit un mouvement d'horlogerie, une baguette de chef d'orchestre ou encore un globe terrestre. La Banque Nationale Suisse a dévoilé aujourd'hui le nouveau billet de 10 francs. Il s'agit de la troisième coupure issue de la 9e génération des billets de banque suisse. Mais est-ce que ça vaut encore la peine de produire de nouveaux billets de banque en 2017? N'est-ce pas anachronique? Question posée à Sergio Rossi, professeur ordinaire à l'Université de Fribourg et spécialiste de la politique monétaire.
Oui, ça paraît anecdotique de voir une nouvelle série de billets et aussi anachronique, mais je pense qu'en Suisse, on a une raison profonde, c'est qu'on veut encore mettre la main sur l'argent, le liquide, le comptant, parce qu'on veut éviter de s'endetter, comme par exemple aux États-Unis, bien des ménages ont dû et voulu s'endetter, et puis ensuite, cela a donné lieu à une crise de la dette privée, la crise des subprimes, pour comprendre. Et je crois qu'en Suisse, on a encore un ancrage fort au billet, parce que on a aussi un ancrage fort à l'épargne. En Suisse, d'habitude, on épargne avant de consommer et on s'endette juste pour des raisons liées au marché hypothécaire, donc immobilier, mais pas pour s'acheter des voitures, des téléphones portables ou des ordinateurs. Même s'il y a une tendance de plus en plus évidente, notamment auprès des jeunes, mais c'est parce que les jeunes ont une attitude orientée vers le consumérisme et aussi parce que les jeunes, en général, n'ont pas vraiment le pouvoir d'achat qu'ils gagnent, mais qu'ils obtiennent de leurs parents. Et leurs parents, de plus en plus, ont des difficultés financières à cause du marché du travail.
Pour vous, l'argent dématérialisé, c'est la porte ouverte à l'endettement?
L'argent dématérialisé ouvre une porte pour s'endetter parce qu'on n'a plus la contrainte budgétaire sous la main. On pense que oui, on pourra payer plus tard parce qu'on va gagner un revenu ou parce que quelqu'un va nous prêter un revenu. Mais on oublie souvent que si on fait plusieurs paiements pendant la journée ou pendant la semaine de manière purement électronique, un jour ou l'autre, on aura perdu aussi l'idée du niveau de la dette auquel on doit faire face. Et on risque de s'endetter juste pour consommer parce qu'on veut s'acheter les derniers cris de la mode pour montrer aux autres, aux amis, ou à notre entourage. Mais on n'a pas vraiment besoin de tout ce qu'on achète en général. Donc si on achète parce qu'on a des billets dans notre porte-monnaie, on sait jusqu'à quel point on peut dépenser. Mais si on achète juste par un clic sur un téléphone portable, on risque, si on n'a pas un niveau d'alphabétisation financière assez élevé, on risque de s'endetter à mauvaise escient.
La suppression du cash, c'est quand même une tendance lourde, qu'on le veuille ou non, Sergio Rossi. Cette 9e série de billets émise par la BNS, c'est la dernière selon vous?
Je pense que ce sera la dernière pour deux raisons. D'un côté, cette série est faite avec du matériel qui est beaucoup plus résistant que le simple papier des séries précédentes. Donc il a une durée de vie plus longue et ça coûte aussi davantage de le produire, de l'imprimer que les séries précédentes. Et puis d'autre part, il y a des moyens de paiement électronique, on a ce qu'on appelle les crypto-monnaies, on a toutes sortes de paiements qui est désormais possible au-delà du comptant. Et pour les paiements de gros montants, là aussi il y a une question de soustraction d'impôts que l'État essaie de pallier avec des lois. Mais par ailleurs, dans d'autres pays, pour éviter la soustraction d'impôts qui est beaucoup plus importante qu'en Suisse, le comptant est en train de disparaître s'il n'a pas déjà disparu complètement.
On voit des politiques nationales qui visent à supprimer l'argent liquide, comme en Scandinavie par exemple, avec des pays comme le Danemark, la Suède, la Norvège, qui sont souvent loués pour leur système politique. Est-ce que ça ne doit pas nous encourager à suivre l'exemple?
Je crois qu'il faut toujours nuancer l'argument et ne pas être tout à fait enthousiaste de la direction que des pays scandinaves ont décidé de prendre pour faire disparaître le comptant. Parce que si on a le comptant, on a une contrainte budgétaire, on sait combien on peut dépenser, alors que si cette contrainte disparaît parce qu'on paye simplement par un transfert bancaire, voire avec un téléphone portable, l'enjeu majeur, c'est que bien des consommateurs risquent de se surendetter, donc de s'endetter sans avoir ensuite les moyens pour rembourser cette dette, voire pour payer les intérêts sur la dette. Je crois qu'il faut, avant de pouvoir faire disparaître l'argent comptant, il faut faire augmenter le niveau de connaissance, donc d'alphabétisation économique et financière de la population. Et en Suisse, je pense qu'on en commence à y aller pour éduquer les nouvelles générations à bien gérer leur épargne, qu'il s'agisse de quelques francs suisses par semaine ou des sommes beaucoup plus importantes lorsqu'on travaille, on est adulte. Mais c'est une question de génération et on ne peut pas le faire d'une année à l'autre, par exemple. Il faut construire cette nouvelle culture de faire appel à des moyens de paiement purement électroniques, mais sans oublier que derrière, il y a une contrainte financière dont il faut être au courant et qu'il faut respecter pour éviter d'avoir une vie ensuite qui est difficile en termes financiers. Parce que si quelqu'un, à l'âge de 30 ans, est surendetté, il va avoir des problèmes pour toute sa vie de cette nature-là, mais aussi d'autres types, parce que peut-être il est amené à divorcer ou il ne va pas avoir des enfants parce qu'il n'a pas les moyens pour les financer, etc. Donc, je crois que la tendance est claire, mais il ne faut pas non plus vouloir aller tous dans cette direction sans faire appel ensuite à des connaissances dont on a besoin pour comprendre les nouveaux moyens de paiement et les risques aussi, parce que aujourd'hui, le Bitcoin et les autres soi-disant crypto-monnaies sont un effet de mode, mais il faut encore savoir qu'est-ce que ces crypto-monnaies, quels sont les risques. Par exemple, le portefeuille électronique pourrait disparaître, pourrait y avoir des problèmes informatiques, et il faut faire attention.
Et justement, au niveau de la sécurité, est-ce que l'argent liquide, c'est pas la porte ouverte à de multiples fraudes qui peuvent échapper au radar?
Oui, il est clair que si on peut payer comptant, on peut faire appel à des paiements dans l'économie souterraine, éviter de payer la TVA, par exemple, aussi, ou acheter de la drogue, des armes. Mais tout dépend du niveau d'alphabétisation de l'acteur économique qui paye avec de l'argent comptant. Et d'autre part, tout moyen de paiement électronique ou sous forme de papier a ses coûts et ses bénéfices, ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir utiliser proprement ces différents moyens. Et c'est clair que si on fait disparaître l'argent comptant pour aller vers une économie monétaire purement numérique, donc par exemple des crypto-monnaies, on pourrait aussi voir le commerce domestique au sein des pays enflé. On dépense davantage, donc il y a davantage de recettes pour les entreprises, elles vont engager davantage de monde, elles vont payer davantage d'impôts à l'État. Mais il faut faire attention toujours au financement des dépenses, parce que la monnaie électronique ou la monnaie papier, c'est le moyen de payer. Mais le financement fait appel à un revenu. Et le revenu n'est pas créé par une écriture comptable auprès d'une banque, mais il faut le gagner, donc il faut produire, il faut travailler.
Et quand on paye en liquide ou en argent électronique, eh bien, les coûts sont différents.
Si je paye avec du liquide, je paye le prix qui est affiché sur l'objet qui m'intéresse. Si je paye avec un transfert bancaire ou avec une carte de crédit ou d'autres moyens de paiement électronique, l'entreprise qui me vend des objets a des coûts elle-même à supporter, et donc répercute cela sur l'acheteur que je suis, et à quelque part, je suis aussi découragé de faire appel à un paiement par carte de crédit si j'achète une banane, parce que j'ai encore quelques 2 francs dans ma poche et je peux payer cash. Mais ça dépend aussi ensuite du degré de concurrence sur certains marchés et aussi des commissions que les banques ou que les sociétés de clearing font payer aux entreprises pour régler le trafic de paiement purement électronique.
Si on supprime l'argent liquide, on supprime un certain droit à la propriété, on dématérialise la propriété et en plus, on s'expose à une société ultra surveillée. Est-ce que ce type d'argument retient votre attention ?
Oui, je comprends cet argument qui vient des milieux libertaires, en principe, mais je crois que si quelqu'un fait des transactions purement électroniques, il doit avoir aucune crainte s'il n'a rien à cacher. Alors que s'il veut cacher quelque chose, soit parce qu'il ne veut pas payer les impôts qu'il doit payer, soit parce qu'il fait un trafic d'objets illégal ou illicite, je crois qu'il faut quand même qu'il se fasse un examen d'autoconscience, l'autocritique, pour dire, bon, peut-être je ne devrais pas faire ça, ou alors peut-être je devrais payer mes impôts, et puis si je paye mes impôts, j'ai aucun problème de me faire tracer les paiements de la journée ou du mois qui vient d'écouler.
Place publique.
Les changements climatiques, ce n'est plus de la fiction, même en Suisse. Il n'y a qu'à voir récemment les éboulements au Grison ou encore ces derniers jours dans le canton du Riz, ou les épisodes de sécheresse, de grande chaleur à répétition dans nos contrées. Plus loin de chez nous, bien sûr, les phénomènes extrêmes se multiplient comme jamais. Raison de plus pour agir, et chacun de nous peut le faire. C'est la raison d'être d'ailleurs, ce message d'une fondation baptisée Big Effect. Une fondation présente à Delémont dès vendredi via un tour de Suisse de l'énergie, un tour qui fait étape à la Foire du Jura et prochainement en Terre-Neuchâteloise l'année prochaine. L'occasion pour le public de découvrir des gestes simples pour ménager l'environnement, notamment via une application disponible sur smartphone. Pour en parler, on reçoit le directeur général de cette fondation, Big Effect, Pascal Edelman. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Avant de découvrir et de parler un peu de votre application, un mot sur votre fondation dont le nom, Grands Effets, sous-entendu Petite Cause, fait référence à l'effet papillon pour monter des projets.
Voilà, exactement. Donc, en fait, on a débuté avec une installation interactive qui s'appelait l'oracle du papillon, qui reprenait les éléments de la métaphore de Konrad Lorenz à propos du changement climatique. Est-ce que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut engendrer une tornade au Texas ? On a monté une tornade de 3 mètres de haut, on a mis des papillons au plafond, et puis en fait c'est les engagements des visiteurs qui pouvaient éteindre la tornade, donc avoir une maîtrise sur ce changement climatique par leur comportement, leur changement d'habitude et les gestes qu'ils font dans leur vie de tous les jours.
Eh bien, ça dit tout sur en fait votre but, c'est de passer le message, mais de manière quand même ludique, voire même quasi merveilleuse, hein, c'est un mot que vous utilisez. On essaye d'éblouir le visiteur, de le séduire pour mieux l'amener à la conclusion, il faut agir.
Voilà, exactement. Donc en fait, on évite toute culpabilisation. Le but, c'est de montrer que les solutions existent, qu'on peut avoir un impact, qu'on peut contribuer au changement, limiter le changement climatique, en l'occurrence, par des changements d'habitude.
parce qu'il y a plusieurs manières de sensibiliser la population. On le voit depuis plusieurs années, il y a la peur avec ces images de catastrophes naturelles, il y a aussi les taxes, la punition, si on ne fait pas juste, eh bien, on doit payer. Vous avez clairement privilégié l'encouragement avec une autre manière de communiquer.
C'est exactement ça, on essaye de montrer qu'on peut agir concrètement. On le fait au travers de l'application, on y reviendra certainement un peu plus tard. Et puis de montrer que le sentiment de plaisir peut contribuer à ça. Et puis qu'on agit beaucoup plus, avec un beaucoup plus grand impact, que si on culpabilise les gens et puis que qu'on leur rend la vie difficile.
Quoi. Oui, mais sans même parler de culpabilité, il peut quand même y avoir chez chacun de nous un sentiment d'impuissance face à l'ampleur du défi à relever, surtout que nos modes de vie très confortables n'invitent pas forcément à faire des efforts en faveur de l'environnement.
D'accord, alors ça c'est sûr que si une seule personne agit, il ne va pas y avoir de changement. Le changement, il peut intervenir que par le cumul de tous ces efforts. Alors, efforts... Oui, mais d'un autre côté, mettre un économiseur d'eau sur un pommeau de douche, ça va pas demander d'effort. L'eau, elle est toujours aussi mouillée. On va toujours pouvoir prendre une douche. On consomme simplement moins d'eau. Si on en consomme moins, on en chauffe moins. Et puis, le but est atteint sans effort.
Alors là, vous donnez un premier exemple très concret. J'imagine que c'est un exemple qu'on retrouve sur votre application Energy Coach, une application qui est disponible d'ores et déjà sur les smartphones. C'est cette application-là que vous présentez sur vos stands dans le cadre de ce tour de Suisse que j'évoquais tout à l'heure.
Donc effectivement, on a développé cette application. On a toujours travaillé au travers de solutions qu'on a quantifiées, où on essaye de montrer quel est l'impact que peut avoir une des solutions qu'on présente. En l'occurrence, j'ai parlé juste avant de l'économiseur d'eau. On peut voir qu'une famille de 4 personnes va économiser en une année à peu près 200-250 francs. Tout dépend naturellement si c'est des enfants en bas âge, des adolescents qui passent une demi-heure sous la douche, ou alors une famille monoparentale. Mais chaque solution est quantifiée en termes d'économie d'énergie, d'émissions de CO2 et en termes financiers.
Alors on arrive sur cette application, je rappelle son nom, Energy Coach, qui est gratuite,
absolument.
Il faut le dire, elle arrive sur notre portable une fois qu'on l'a installée. Et là, on voit plusieurs chapitres, expliquez-nous comment ça marche, comment on entre dans cette démarche.
Alors il y a une première étape où on répond à quelques questions pour définir son profil, et puis qui permettra par la suite de quantifier. Si je prends, il y a 5 thématiques, la mobilité, l'habitat, la consommation, la nutrition et l'électroménager, les appareils électroménagers. Donc en gros, ça couvre toute notre vie quotidienne. On rentre par exemple le nombre de kilomètres qu'on parcourt par année, ça va nous permettre de quantifier les solutions en termes de mobilité. Si on prend les transports publics et puis qu'on évite de prendre la voiture, on va pouvoir calculer quelle est l'énergie économisée et aussi les dépenses.
Alors, on va sur la mobilité, on fait un exemple, et là, il y a plusieurs choix possibles. Est-ce que vous pouvez nous en proposer quelques-uns, qu'on se rende compte de ces petits gestes qui peuvent finalement faire du bien à l'environnement?
Alors, il y en a un qui est tout simple, c'est d'augmenter la pression des pneus. Donc, si vous contrôlez régulièrement la pression de vos pneus et puis que vous l'augmentez un tout petit peu au-delà de ce qui est indiqué, on va pouvoir économiser environ 3% du carburant. Et puis là, naturellement, ça dépend des distances qu'on parcourt chaque année. Et puis les économies qui en découlent, elles vont varier en fonction de cela.
Ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas non plus la mer à boire, ce n'est pas trop contraignant. Et déjà, ça peut permettre de faire des progrès. Et cette application donne, par exemple, un ordre de grandeur par rapport à ce que ça peut faire gagner en termes d'énergie.
Voilà, c'est exactement ça. C'est de pouvoir imaginer quel est l'impact de cette solution. Et le but, en fait, c'est d'en cumuler le plus possible et puis d'arriver à émettre beaucoup moins de CO2, d'économiser de l'énergie et économiser de l'argent aussi.
Alors, il y a d'autres catégories. Là, on a parlé de mobilité, mettre plus de pression dans les pneus. Il y a, par exemple, au niveau de la nutrition, de ce qu'on mange, aussi des conseils que vous pouvez apporter aux utilisateurs, par exemple.
Alors, une chose toute simple, c'est de faire un petit peu attention aux aliments qu'on va acheter. Acheter des produits locaux et de saison, ça veut dire qu'il y a beaucoup de moins d'énergie grise qui est comprise dans ces aliments. Automatiquement, les émissions de CO2 sont dépendantes de cette énergie grise. Il y a d'autres gestes qui sont très faciles à faire en Suisse, c'est de boire de l'eau du robinet. On a une eau d'excellente qualité, il n'y a absolument aucune nécessité d'acheter des boissons, enfin de l'eau, dans des bouteilles PET. Il y a des gestes qui sont un peu plus compliqués, c'est pas vraiment le cas, mais si on mange une ou deux fois par semaine végétarien, on va consommer beaucoup moins de viande. Si vous suivez un peu les actualités, vous savez que nourrir une vache, ça va demander énormément d'eau, de terrain, de nourriture. Et puis qu'en mangeant végétarien, on va émettre beaucoup moins de CO2 de par notre consommation.
Et aussi, on imagine de votre part la volonté d'insuffler une forme de cohérence dans le grand public, parce que faire des petits gestes régulièrement, se rendre trois fois en avion dans un lieu en Europe pour passer des vacances en low cost, là ça peut, j'allais dire, tout foutre en l'air.
Voilà, donc là aussi on a des choix à faire. On peut très bien imaginer d'aller à Paris en TGV, de faire du covoiturage jusqu'à Valorbe, prendre le TGV, aller boire un verre au bar. On va pas prendre plus de temps qu'en avion. Ça va coûter à peu près la même chose. Et puis, on aura passé un moment de convivialité absolument très sympathique.
Alors, voilà pour quelques exemples de cette application donc Energy Coach, qui permettra de coacher chacun d'entre nous pour faire mieux en termes d'économie d'énergie. Pascal Edelman, il y a des stands qui seront donc en vigueur ou qui seront ouverts dès vendredi à la foire de Delémont. C'est l'occasion pour vous, justement, de montrer comment fonctionne cette application.
Voilà, exactement. Donc, sur le stand, c'est un stand qui est quand même conséquent, qui fait 180 mètres carrés. Enfin, celui de Delémont, il est un peu plus petit, il est à 160.
Et vous serez aussi présent à Neuchâtel, on le rappelle.
J'y serai tous les jours, on a une équipe, on est là pour conseiller les gens.
Alors, à Delémont dès vendredi, et à Neuchâtel, ça c'est pour le printemps prochain.
Ce sera pour le printemps prochain, au salon de l'immobilier de Neuchâtel. Donc, on est une équipe présente pour parler de l'application. Mais par contre, on travaille en collaboration avec des partenaires. Et en l'occurrence, ça va être le service de l'énergie du canton du Jura, à Delémont, qui lui fera la promotion de leur programme bâtiment, de toutes les subventions que peuvent obtenir les habitants quand ils rénovent leur maison. Mais là aussi, naturellement, il y a des économies à faire en termes d'énergie. Si on rénove et puis qu'on isole sa maison correctement, si on y met des panneaux solaires, on va pouvoir grandement baisser sa consommation d'énergie.
Des messages qu'il faut donner, redonner encore. Ce stand, c'est donc des collaborations, vous venez de le dire, mais aussi des conférences qui permettront à chacun de faire plus ample connaissance avec certaines thématiques comme la conduite écologique.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est un autre partenaire qui est présent sur le stand avec un simulateur, EcoDrive, qui permet de conduire tout en diminuant sa consommation d'essence. Il y aura des conférences, comme vous l'avez dit. Conférence, c'est un grand mot. Ça, en fait, c'est des présentations qui durent à peu près un quart d'heure. On est dans un comptoir, on ne va pas pour une conférence d'une heure et demie. Mais néanmoins, ça permet aux personnes de présenter le programme bâtiment du canton du Jura, d'expliquer ce qu'est un CECB, de voir quelles sont les énergies renouvelables et puis les fournisseurs d'énergie renouvelable, de panneaux solaires, d'énergie bois. Donc on a un ensemble de mini-conférences qui seront programmées tous les jours à 19h.
Dernière question, on en termine avec les réactions que vous avez déjà recueillies quand vous étiez dans les foires, parce que vous en avez déjà fait des foires. Qu'est-ce qui surprend le plus le grand public? Qu'est-ce qui, justement, on parlait de merveilleux, émerveille, si c'est le cas, les visiteurs, quand ils appréhendent votre façon de voir les économies d'énergie?
Alors, bon, on a beaucoup travaillé au niveau du graphisme, où on s'est appliqué à mettre des pictogrammes pour chacune des solutions, de jouer avec ces pictogrammes. On a un énorme écran LED où on a un film qui dure une quinzaine de minutes, un magnifique film qui a été réalisé entièrement en Suisse, avec quelques messages, et puis aussi des animations, justement avec ces pictogrammes, qui se retrouvent un peu partout sur notre stand, en fait.
Et donc, c'est ludique, c'est beau à voir. Merci beaucoup, Pascal Edelman, d'être venu nous voir dans Place Publique et nous faire envie de venir vous visiter, donc, dès vendredi à la Foire de Delémont et dès ce printemps au Salon de l'Immobilier de Neuchâtelois. C'est le stand du Swiss Energy Tour. La fondation s'appelle Big Effects. Tous ces renseignements, vous les retrouvez en lien sur notre site internet. Bonne soirée, à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci à vous, et c'est ainsi que s'achève Place Publique. On remercie Yannick Frossard pour la réalisation. Vous trouvez l'entier de cette émission en podcast et aussi sur nos apps, bien entendu. Dans un instant, eh bien, ce sont les informations. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine.
Place Publique.